aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. À la une de l'actualité, au Kenya, au moins 15 personnes sont mortes dans l'incendie la nuit dernière du plus grand marché de Nairobi. Au Tchad, reprise du procès d'Adam Nouki Sharafadine, l'ex-gouverneur de Douba. Donald Trump et Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki, en terrain neutre. Un sommet sur l'immigration se tient à Bruxelles. Dans le journal de la Coupe du Monde, nous reviendrons sur le Sénégal qui a perdu face à la Colombie 1-0 et sort de la compétition. Mais tout d'abord, le journal. Au Kenya, 15 personnes sont mortes et plus de 70 autres blessées la nuit dernière dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de Nairobi. Nathalie Barge.
L'incendie s'est propagé à des bâtiments adjacents après s'être déclaré dans un dépôt de bois du marché dans l'est de Nairobi. De nombreux pompiers et l'armée kényane ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont récupéré 9 corps dans le bâtiment calciné. Plusieurs personnes sont portées disparues. Les secours essayaient encore ce matin d'accéder à certaines parties du marché où il y avait une épaisse fumée et des câbles électriques. Les autorités ont eu des difficultés à contenir les propriétaires des shops qui tentaient de s'approcher malgré les nombreuses explosions de bonbonnes de gaz. Le marché de Gikomba a subi plusieurs incendies ces dernières années, provoqués notamment par des installations électriques artisanales. Les autorités du comté de Nairobi tentent d'établir les causes de cet incendie.
Toujours au Kenya, le lac Turkana, plus grand lac désertique au monde et considéré comme un des berceaux de l'humanité, a été placé ce jeudi par l'UNESCO sur la liste du patrimoine en péril. Il est en effet menacé par un barrage hydroélectrique et des projets d'irrigation éthiopiens. Le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed vont bientôt se rencontrer. C'est ce qu'a rapporté la télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien. Une première en près de 20 ans entre les deux plus hauts dirigeants de ces pays voisins qui ont mené une guerre meurtrière. Le gouvernement tchadien se dit inquiet de la situation sécuritaire en Libye, où sont présents des mercenaires du Tchad. De nombreux ressortissants tchadiens vivent en Libye, pays frontalier du Tchad. L'armée nigériane, elle, annonce avoir arrêté 17 suspects en lien avec les massacres du week-end dernier dans l'état du Plateau. Des meurtres avaient été perpétrés dans des villages, ainsi que des attaques commises en l'encontre des Peuls sur la route au sud de Jos, capitale de l'état du Plateau. Toujours au Nigeria, un jeune de 35 ans a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, devenant ainsi le plus jeune candidat de cette campagne depuis la loi abaissant l'âge limite en politique. Sheik Oukwebou fait partie des plus de 60% de la population qui est âgée de 18 et 35 ans. Il a récemment été nommé par les Nations Unies comme l'un des 100 Africains de moins de 40 ans les plus influents du continent. Au Tchad, reprise du procès de l'ex-gouverneur de Douba, Adam Nouki Sharafadine, et ses co-détenus ce matin au palais de justice de N'Djamena, les précisions de notre correspondant André Komadjingar.
Adam Nouki Sharafadine a été jugé coupable pour destruction des biens, empiètement sur les fonctions judiciaires, discrédit jeté sur la décision judiciaire, complicité à la détention arbitraire, outrage à magistrat et attentat à la liberté. Lui et le commandant de la Légion de la gendarmerie de Douba, Jamal Mahamat Nimir en cavale, et son adjoint sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme avec 5 millions d'amendes chacun. Un mandat d'arrêt a été émis contre Jamal Mahamat Nimir, toujours en fuite. Les 3 gendarmes écopent chacun 6 ans d'emprisonnement ferme avec 200 000 francs d'amende et sont radiés de leur corps. Colère des avocats de la défense qui entendent interjeter appel puisque la loi leur accorde un délai de 10 jours. Pour Maître Olivier Guara de la défense, à quelques minutes de ce verdict, certains individus sont déjà au courant de la peine qui allait être prononcée par les juges. Pour lui, un appel sera relevé pour dénoncer cette fuite d'informations et ce qu'il qualifie de parodie de justice. Maître Doumra Manassé, l'auteur de la plainte, se dit partiellement satisfait de ce verdict et entend lui aussi faire appel pour que le droit soit véritablement dit. Car pour lui, l'affaire est criminel parce que, précise-t-il, l'un de ses clients libéré par la justice, puis repris par Adam Nouki Sharafadine et ses hommes est porté disparu. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Togo, au lendemain de la visite des présidents ghanéens et guinéens, facilitateurs pour résoudre la crise politique qui secoue le pays depuis près d'un an, l'opposition vient de rejeter la tenue d'élections législatives d'ici la fin de l'année, comme le préconisent les négociateurs. Au Maroc, la condamnation des meneurs du Irak, le mouvement de protestation qui a agité le nord du Maroc en 2016-2017, a suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation. Parodie de justice pour les uns, corruption pour d'autres, les manifestations se sont multipliées dans le pays. Sur Facebook, des milliers de personnes ont remplacé leurs photos de profil par un fond noir, avec des commentaires sur la honte ressentie face à cette injustice. Certains ont pointé du doigt, d'autres des années de plomb. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki en terrain neutre. Eric Manirakiza.
La Maison Blanche et le Kremlin ont annoncé simultanément la rencontre entre les deux chefs d'État en préparation depuis des mois. Ce sommet constitue une nouvelle tentative de réchauffer des relations qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Messieurs Trump et Poutine aborderont l'état actuel et les perspectives de développement des relations russo-américaines et les principaux sujets internationaux. Mercredi soir, le président Trump a affirmé son intention d'évoquer notamment les crises en Syrie et en Ukraine. Selon le Kremlin, le sommet devrait comporter un tête-à-tête, un repas de travail, une conférence de presse conjointe et la publication d'une déclaration commune. Avant le sommet, Donald Trump doit assister au sommet de l'OTAN prévu les 11 et 12 juillet à Bruxelles, puis il est attendu à Londres le 13. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est félicité de ce premier sommet entre Washington et Moscou.
Donald Trump a une nouvelle fois remis en cause l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, alors que Robert Mueller, ancien chef de la police fédérale, n'a pas encore fini son enquête. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a menacé ce jeudi d'opposer son veto aux conclusions du sommet de l'Union européenne consacré à la question migratoire sur l'Italie si l'Italie n'obtient pas satisfaction pour ses demandes. Les précisions avec Irénée Herman-Hungbo.
L'Italie attend des actes forts des dirigeants européens sur la question migratoire. Ce sommet sera un choix et je suis disposé à en tirer toutes les conséquences, a averti le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dès son arrivée à Bruxelles pour cette rencontre. M. Conte dit avoir obtenu beaucoup de manifestations de solidarité d'autres dirigeants européens sur le sujet, des propos qu'il souhaiterait voir se traduire par des faits, sinon son pays pourrait opposer un veto. Le chef du gouvernement populiste de Rome a rappelé avoir soumis une liste de demandes lors d'une réunion informelle avec 15 de ses homologues européens dimanche dernier à Bruxelles. Selon lui, la proposition soumise par l'Italie est raisonnable et conforme à l'esprit et aux principes de l'Union européenne sans donner plus de détails. Il souligne que son pays n'a plus besoin de signes verbaux mais de faits concrets et que cette rencontre devra faire un choix clair et net entre deux voies.
Les Nations Unies ont annoncé avoir suspendu leur convoi humanitaire transfrontalier depuis la Jordanie vers la province de Deraa en Syrie en raison des combats qui ne garantissent ni la sécurité des convois ni celle du personnel. Des centaines de réfugiés syriens ont quitté le Liban ce jeudi pour rentrer chez eux dans le cadre d'une opération coordonnée entre les autorités de Beyrouth et celles de la Syrie voisine. Alors que le calme est revenu dans certains secteurs reconquis par le pouvoir syrien, le Liban estime que l'heure du retour a sonné pour les quelques 1,5 million de réfugiés syriens. Selon le HCR, la localité d'Arsal, par exemple, dans l'est du Liban, accueille quelques 36 000 réfugiés, pour la plupart libanais. Le pape François a accepté la démission de deux nouveaux évêques chiliens, portant le total à 5, accusés de pédophilie. Les délits auraient été commis par un réseau dénommé La Famille pendant au moins une décennie avant d'être dénoncés par une membre de la paroisse la semaine dernière dans un reportage diffusé par la chaîne de télévision chilienne. Le parquet a ouvert une enquête. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure du Mondial 2018 en Russie. Nicolas Pineau nous donne le compte-rendu de la journée. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Akia, bonsoir à tous. Terrible désillusion pour le Sénégal ce soir en Russie. Les Lions de la Teranga sont éliminés de ce Mondial après une défaite 1-0 face à la Colombie. Un pénalty refusé pour le Sénégal en première mi-temps sera sans doute le tournant du match. Le Sénégal est éliminé malgré la défaite du Japon 1-0 face à la Pologne. C'est la différence de cartons jaunes plus nombreux côté sénégalais qui a permis aux Nippons de se qualifier. On va retrouver sur place Sam Dinsi, l'envoyé spécial de VO Afrique aux côtés du Sénégal en Russie.
Pourtant, le Sénégal avait bien démarré cette rencontre en exerçant un pressing qui a gêné quand même cette équipe colombienne durant la première mi-temps. Mais comme vous le savez, il y a eu quand même un fait de match durant cette partie. C'était à la 16e minute. L'arbitre de la rencontre avait accordé un pénalty suite à une faute de 116 sur la salle de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané. Mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir visionné quand même les images. Le Sénégal a continué quand même à gérer cette première période. Finalement, les équipes sont retournées au vestiaire sur ce score de 0 buts partout. Au retour des vestiaires, les Colombiens qui savaient qu'une victoire pouvait les qualifier ont mis quand même la pression sur les Lions du Sénégal. Ils ont quand même continué à attaquer et ce qui devait arriver arriva lorsque sur un corner, le coup de tête du défenseur quand même colombien a trompé la vigilance de Khadim Gaye qui n'a pas pu retenir le ballon. Les Sénégalais ont essayé de tenter, mais ils ont été maladroits à l'arrivée. L'équipe nationale du Sénégal perd, donc le Sénégal sort de cette compétition par la petite porte.
Amdinsi, depuis Samara en Russie avec les Lions de la Teranga, déception également des supporters sénégalais à Dakar, mais aussi dans la capitale américaine.
C'est le sport. You know, il faut qu'un gagnant et un perdant aussi y a. Donc nous sommes très fiers de nos Lions du Sénégal. Ils ont fait un tournoi exceptionnel, une jeune équipe. Donc c'est ça le football. Hein. Donc tu perds et puis il faut rebondir.
Voilà un supporter sénégalais au micro d'Arzuma Compaoré à Washington. Au total, les 5 équipes africaines étaient présentes sur cette Coupe du Monde. Et bien ces 5 équipes sont éliminées. Mauvaise année pour le foot africain. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir. La sortie précoce des représentants africains de la Coupe du Monde 2018 peut déjà permettre de présenter le bilan de l'épopée du continent dans la compétition. Tout le monde se félicitait du casting final après les éliminatoires de la zone Afrique. Dans la pléthore de clubs rassurés et la jeunesse talentueuse des deux représentants de l'Afrique subsaharienne était porteuse d'espoir. Les résultats ont été mi-figue et mi-raisin. L'Afrique du Nord a, comme à son habitude, produit un football de qualité, étalant sa technique individuelle et collective, sa culture tactique évidente et malgré des résultats insuffisants, des scores normaux de football, en dehors d'une Tunisie qui, face à la Belgique, a fait preuve de laxisme, les ailes de Carthage se sont autorisées d'encaisser 5 buts contre 2, un score anachronique depuis un certain Russie-Cameroun en 1994. Sinon, sans fixation absolue sur son joyau gala, l'Égypte aurait eu ses chances. Avec un arbitrage plus correct et plus de respect pour l'Iran, le Maroc aurait passé le premier tour, sans doute au détriment d'un des deux favoris de poule, le Portugal et l'Espagne. Tandis que, par manque de conviction, la Tunisie mériterait que la sélection rende des comptes. Par contre, c'est de l'Afrique subsaharienne traditionnellement plus exposée à l'incertitude qu'est venue l'heureuse sensation. Nigérians et Sénégalais sont tombés de justesse, des armes à la main et avec la manière. Par ailleurs, une interprétation plus favorable des ralentis leur aurait ouvert les portes des huitièmes de finale sans que personne ne crie au scandale. L'odyssée africaine s'arrête à la porte du second tour, mais l'Afrique tient son rang et confirme ses progrès. Il reste juste à ses formations à soigner des détails qui font pencher la balance. À bientôt.
Et à 18h, temps universel, la Tunisie tentera de sauver l'honneur face au Panama. Hier, la FIFA a rejeté la requête de la fédération tunisienne d'inscrire un quatrième gardien sur la liste des joueurs de la sélection. Autre match à venir à 18h, l'Angleterre et la Belgique. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Tchabadou de nouveau avec vous. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. À Dakar, des milliers de personnes étaient réunies à la place de la Nation pour regarder le match Sénégal-Colombie du groupe H. Le Sénégal a perdu la chance d'aller en huitième de finale. Aucune équipe africaine n'a pu franchir le cap du premier tour. Sur place, au reportage de notre correspondant Seydina Bagay.
À la place de la Nation, les supporters étaient relativement confiants et bouillants après une première période parfaitement maîtrisée par les Lions. Une prestation collective jusqu'alors satisfaisante pour les fans de l'équipe nationale du Sénégal, comme l'indique Abdoulaye Ba Traoré.
Bon, d'après les 45 premières minutes, on est satisfait de nos Lions. Bon, voilà, ils ont produit de très bons jeux, oui. Bon, ça reste que le but, genre, on a eu au penalty, mais malheureusement, l'arbitre ne l'a pas sifflé, genre, voilà. Oui, il y a au poil de Keita, tout le monde. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. Bon, je croyais que Keita n'était pas content, mais là, ce qui nous a, comment dire, produit en bonne évidence, franchement, c'est très surprenant.
À la mi-temps, les supporters, comme Seydina Oumar, se projetaient déjà sur un éventuel huitième de finale.
On attendait Yao Balde qui est venu et qui a donné tout son talent. Vraiment, on est très satisfait. Fantastique, vraiment, fantastique. On est derrière eux et on les supporte de bout en bout, de A à Z, à 200% même, à 200%, on va qualifier, Inch'Allah, et aller battre l'Angleterre pour le Belgique, Inch'Allah.
Les ambitions affichées par les Sénégalais seront douchées par le but de la Colombie à la 74e minute. Un but qui a plombé les chances de qualification du Sénégal et plongé dans la tristesse les supporters présents à la fin zone. Fatima Wan en perd ses mots.
À 60%, et si va la vie, la défaite vient à chaque moment qu'on n'attendait pas. Nous avons bien joué, mais si la défaite vient, ça vient. Personne n'y peut rien. Mais nous prions pour nos clients de faire la mieux la prochaine fois. Bien continuer comme ça, ça ira là pour la prochaine fois, Inch'Allah.
Malgré l'élimination, l'équipe du Sénégal a un avril radieux devant elle, d'après Djibi Diallo.
Il faut quand même essayer de gérer la défaite avec philosophie. Bon, nous tous, on aurait souhaité vraiment se qualifier, mais les choses étant ce qu'elles sont, donc moi je me dis qu'il faut savoir gagner dans la dignité, mais aussi perdre dans la dignité. Bon, non, Lyon n'ont pas démérité, on est une équipe jeune, et vraiment, moi je dis chapeau bas à cette équipe, et vraiment, il faut quand même leur donner la chance quand même de se préparer encore pour d'autres séances.
À Dakar, l'euphorie qui entourait une éventuelle qualification du Sénégal a laissé place à une tristesse totale. Les supporters sont déçus par l'élimination mais restent optimistes quant à l'avenir de cette jeune et talentueuse équipe sénégalaise. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum se met à l'heure du football. Deux semaines après le début de la Coupe du Monde de football en Russie, aucune nation africaine n'est qualifiée pour le moment pour les huitièmes de finale. Seul le Sénégal défend encore les couleurs du continent. Les Lions de la Teranga peuvent-ils créer la surprise ? Que s'est-il passé avec les autres équipes africaines ? L'Afrique parviendra-t-elle un jour à placer une équipe en finale ? Le football africain est-il esclave de la mondialisation ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel. Au Maroc, la condamnation des meneurs du Irak, le mouvement de protestation qui a agité le Maroc en 2016-2017, a suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume. Claire Morin-Gibourg a joint le journaliste judiciaire Brahim Mokli pour lui demander quelle était l'atmosphère au royaume chérifien.
On n'attendait pas qu'il y ait un verdict aussi lourd que ça. Donc c'est pour ça que la réaction a été très présente, soit fait des communiqués à travers des organisations auxquelles ils appartiennent, des ONG, même des avocats qui ne défendent pas les personnes qui sont mises en cause dans cette affaire. On fait des communiqués, on fait des articles, on fait des chroniques. Des citoyens ont manifesté hier, juste après l'annonce du verdict. Des gens sont allés pour contester devant la prison où sont détenues les personnes condamnées. Il y a eu hier des manifestations à Casablanca et à Rabat. Une à Casablanca dans une place très connue et à Rabat devant le Parlement. Donc il y a une panoplie de réactions de la part des gens, sans parler de ce qui se passe sur les pages Facebook, les réseaux sociaux en général. Alors, même partis politiques, on n'a pas eu une réaction aussi rapide que ça de la part des partis politiques marocains. Plusieurs formations politiques ont fait des communiqués pour appeler un peu à revoir ne serait-ce qu'on appelle la gravité de ce verdict.
À votre avis, que va-t-il se passer dans les prochains jours ?
Justement, c'est la grande crainte, c'est qu'il y ait une réaction qui s'amplifie, que les gens sortent dans la rue pour contester la gravité de ce verdict, parce que surtout on entend parler maintenant de ce qui se passe à Al-Fatima, et aussi à Jarada, parce que en guise de préparation de l'autre procès des gens qui ont été détenus dans le cadre des procès de Jarada, les gens sortent à Oujda, dans la région où se trouve Jarada, et aussi à Al-Fatima et Nador. Donc la crainte, c'est qu'il y ait d'autres manifestations et qu'il y ait une confrontation avec les forces de l'ordre. Donc c'est la grande crainte.
Est-ce que vous pensez que l'on peut espérer une grâce du roi ?
Oui, là aussi c'est une alternative qui est attendue d'ailleurs depuis le démarrage du procès. Mais est-ce que ça va avoir lieu ? Parce qu'en général, la grâce n'intervient qu'après la fin des procès, de son processus et que les décisions prises aient atteint l'autorité de la chose jugée. Donc il faut attendre que le procès se termine pour qu'il y ait une grâce dans ce sens-là.
Mais le procès est terminé là ?
Non, c'est en première instance, il va y avoir l'appel, donc ce n'est que le premier degré. Ce sont les décisions qui ont été prises en premier degré, donc il faut attendre l'appel.
Brahim Mokhlis, journaliste au Maroc. Angar, dans le centre du Nigeria, les cultivateurs sont en deuil après les massacres qui ont eu lieu le week-end dernier. Plus de 200 personnes ont été tuées dans une dizaine de villages, dans des violences entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits récurrents sont principalement fondés sur des questions foncières. Les précisions avec Dili Diko.
Les violences de samedi dans la région du Plateau sont apparemment des représailles à la mort jeudi dernier de 5 éleveurs peuls tués par des fermiers de l'ethnie Bérom. Selon le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Lalongue, ces affrontements auraient causé la mort de plus de 200 personnes. La police nigériane, qui soupçonne les éleveurs, a fait état de 86 morts, mais de nombreuses sources locales, les membres des communautés affectées, avancent un bilan de plus de 100 morts. Les attaquants n'ont pas pu être clairement identifiés. Écoutons Chilomayasu, le chef communautaire du village d'Ungar.
Ceux qui sont venus sont des étrangers. Nous ne les connaissons pas.
L'insécurité au Nigeria semble grandissante, contrairement à la promesse faite par le chef de l'État, Muhammadu Buhari, celle de garantir la sûreté des Nigérians. Après les dernières violences, de nombreuses voix se sont élevées pour exiger le départ du président s'il ne parvenait pas à mettre fin à cette résurgence des violences intercommunautaires. Du côté des populations touchées, l'aide ne semble pas arriver. Mafouak Matouré, un résident d'Ungar, explique avoir tout perdu.
Ceux qui nous ont attaqués ont tout brûlé. Ma maison a été rasée, ils nous ont pillé et pris tout ce qui était viable. Nos motos, nos engrais pour travailler la terre et même ma télé. Nous voulons quitter cet endroit, mais personne ne nous vient en aide.
Pour certains, au vu de la situation, il ne reste plus qu'une chose à faire, partir. Comme l'a fait Paulina Auta, une résidente de Ganarop.
Je pars à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous étions assis là et tout à coup, nous avons vu débarquer des individus vêtus de noir. Ils ont commencé à tirer.
Désormais, la terreur ne semble plus venir uniquement de l'insurrection islamiste de Boko Haram. Les violences interethniques sont aussi à l'origine des effusions de sang. Au Nigeria, le règlement de ce conflit de longue date entre éleveurs et fermiers est devenu un enjeu clé pour les prochaines élections en février.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
En Angola, le président João Lourenço, depuis son arrivée au pouvoir, a limogé beaucoup de proches de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Ainsi, Isabel dos Santos, fille de l'ancien président, a quitté la direction de la Sonangol, la Société Nationale de Pétrole. Idriss Fall a recueilli la réaction de Isaia Samakuva, président de l'UNITA, le principal parti de l'opposition en Angola, qui était hier dans nos studios à Washington.
Je ne sais pas si le départ d'Isabel dos Santos et des autres sont signal de la lutte contre la corruption. Parce que je pense que c'est normal, quand quelqu'un arrive à certaines places, il a besoin de mettre des gens qu'il connaît bien, des gens dans lesquels il a confiance. Donc d'abord, des changements de personnel, je pense que c'est quelque chose de normal dans ce cas-là. Donc,
si on change le personnel et qu'on est convaincu qu'il y a eu détournement, pourquoi il n'y a pas procès des enfants de Dos Santos, par exemple?
Dans ce cas-là, c'est pas même la lutte contre la corruption, c'est peut-être la lutte contre le népotisme. Parce que, en ce que beaucoup de gens disent, la gestion d'Isabel Dos Santos n'était pas quelque chose de négatif. Mais si nous considérons qu'Isabel Dos Santos a été nommée par le père, donc ça, vraiment un signal de népotisme que M. João Lourenço veut aussi combattre.
Mais pourtant, on dit qu'Isabel Dos Santos, c'est la femme la plus riche du continent.
Donc, en ce qui concerne la corruption, si nous parlons d'Isabel Dos Santos, il fallait investiguer la source de la richesse d'Isabel Dos Santos. Ça, donc, nous pourrions dire que c'est un signal de la lutte contre la corruption. Parce que si elle est la femme plus riche de l'Afrique, il fallait savoir si la richesse qu'Isabel Dos Santos a est venue des affaires normales et légales ou pas. La loi qui a été faite pour demander que ceux qui ont pris de l'argent, des fonds du pays pour l'étranger, devraient le mener au pays. Cette loi aussi, à notre avis, c'est une loi qui va légaliser simplement le détournement des fonds du pays.
C'est-à-dire parce que quand on ramène l'argent au pays, en fait, l'argent, on est toujours propriétaire.
Absolument. Mais dans ce cas-là, quand on mène l'argent au pays, l'argent est vôtre, donc c'est légal.
Isaia Samakuva, président de l'UNITA, le principal parti d'opposition en Angola.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas vos émissions interactives RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Nashran Kali. À la présentation, Ekiabad. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Bonne suite de programme en notre compagnie. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM,
à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.